Donc, je précise pour commencer, j'ai une phobie de la prise de parole en public, ce qui n'est pas pratique quand on est conférencière. Donc, voilà, vous étonnez pas si je tremble un peu au début et puis en général, ça se calme. Je suis ravie d'être là, même s'il y a une partie de moi qui se marre un peu. Quand je me rappelle de mon premier stage de communication non violente, c'était avec Thomas d'Ensembourg il y a assez longtemps. Et je me souviens, il avait commencé le cercle d'introduction en nous demandant ce qu'on y connaissait à la CNV. Et moi, j'avais répondu, bah, rien. Moi, j'y connais rien. Par contre, j'ai un master en communication violente avec moi-même. Et donc voilà, bah, 10 ans plus tard, j'apporte des pratiques, on pourrait dire, de pacification intérieure et de résilience intérieure auprès des individus et des collectifs. Je dis tout le temps qu'on enseigne ce qu'on a besoin d'apprendre, donc ben voilà. Aujourd'hui, je viens vous parler donc de self-compassion, qui est vraiment un art de la pacification intérieure. On pourrait dire que c'est un art de la non-violence avec soi. Et j'apporte une petite nuance de départ. C'est pas une pratique de développement personnel. Moi, j'y crois pas trop au développement personnel. Je crois qu'on s'est planté avec ce mot-là. Je crois plus au développement relationnel. Ce sont des pratiques qui nous apprennent à restaurer le lien à soi, aux autres, aux vivants et puis au monde en général. Je crois que ce sont des pratiques qui nous aident à restaurer la relation entre bien-être individuel et bien commun, entre santé mentale, santé de la planète. Je crois que ce sont des pratiques intimes et politiques. Et là, mon texte a buggé et je suis passée à la conclusion. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que j'arrête? J'ai pas le timing non plus. Ah ouais, ok. Donc je reviens à mon intro. Ouais, je vois vraiment ces pratiques de prendre soin comme un acte de subversion, en fait, à contre-courant d'un système qui nous veut dur et violent envers nous-mêmes, les autres et puis l'ensemble du vivant. Donc c'est ça que j'ai envie de vous apporter aujourd'hui, même si franchement je trouve ça hyper compliqué de clôturer cette journée. J'ai failli vous dire, venez, on prend 30 minutes de silence parce que tout a déjà été dit, et hyper bien dit. Pour commencer, je voulais vous proposer un mini exercice. Vous allez pouvoir fermer les yeux. Et mon texte est revenu à la conclusion. Vous allez pouvoir fermer les yeux et vous remémorer une situation récente de difficulté ou de souffrance dans votre quotidien. Un moment difficile. Prenez pas non plus le truc qui vous a mis en PLS ultime. C'est juste un petit entraînement. Prenez la première situation qui vous vient. Et essayez de voir comment vous vous sentez et qu'est-ce que vous vous dites à vous-même. Et puis, vous allez maintenant essayer de vous remémorer un ami, un proche, qui vit une situation difficile. Quelle est votre réaction, votre ressenti? Et qu'est-ce que vous vous dites? Et est-ce qu'il y a une différence entre la première étape et la deuxième, entre un moment où vous êtes en difficulté et un moment où c'est un proche qui vit une situation difficile? pourrait ouvrir les yeux. Pour terminer ce petit exercice catapulté. Alors, est-ce qu'il y en a qui veulent partager une ou deux personnes s'il y a une différence entre le cas numéro 1 et le cas numéro 2? Ouais. Ok. Donc, plus d'impuissance pour toi et plus de créativité pour et plus d'élan d'aider. Ouais. Ouais, Roman. Plus de jugement pour soi, plus de câlin pour l'autre. Ouais. D'autres comme Roman? Ok. Ben, merci de confirmer les statistiques. Qui disent donc que 70% des gens sont plus compatissants avec autrui qu'avec eux-mêmes. Quel que soit ce qu'on met derrière le mot compatissant, peut être patience, non-jugement, acceptation, tendresse, câlin. Il y a même des stats qui disent qu'on est plus compatissant avec quelqu'un qu'on ne connaît pas qu'avec nous-mêmes. Donc la définition de la self-compassion, en fait, c'est dans les moments de souffrance, la capacité à prendre soin de nous comme on le ferait pour un ami. Se traiter soi comme on traiterait un ami. Moi, j'appelle ça vraiment l'art d'entrer en amitié avec soi. Et il s'agit en fait de pacifier son rapport à soi, pas juste pour notre bien-être individuel, mais pour ne pas ajouter à la violence du monde et pour ne pas intérioriser la violence du monde. Alors, qu'est-ce qui fait obstacle à l'amitié avec soi, à la paix en soi? Donc, il y a plein de choses, évidemment, on ne va pas être simpliste, même si on n'a que 30 minutes. On évolue dans des sociétés, dans des vies hyper contractées, à la fois par les pressions extérieures, le stress, la vitesse, les conflits, les pollutions digitales, les injonctions sociétales, les oppressions systémiques, et j'en passe. Certes, il y a tout ça. Et puis nous, on s'en rajoute une couche avec ce que j'appelle... Ah mais non, je ne vais pas vous le dire tout de suite. On s'en rajoute une couche avec un mécanisme intérieur sournois et violent. J'avais lu que le mot réconcilier venait du latin rétablir l'amitié. Et donc, qu'est-ce qui fait obstacle à l'amitié en nous? C'est ce que moi j'appelle nos non-réconciliateurs, nos non-réconciliations intérieures. Mais aussi, je vais donner un petit nom, j'ai appelé ça le tyran intérieur. Et ce tyran intérieur, petit coquin, prend plein de formes, selon les personnalités, selon les moments aussi. C'est une façon de se mettre la pression. Par exemple, pour animer une conférence, pour apprendre aux gens à ne pas se mettre la pression. C'est une façon de se culpabiliser, de s'autocritiquer, ou de se juger, de se comparer. Ça peut être une dureté intérieure, une exigence à outrance, une absence de tolérance, un perfectionnisme, un refus de se donner le droit au repos, un refus de reconnaître qu'on a besoin de prendre soin de nous. C'est le fait de ne pas se donner le droit à l'erreur ou à l'échec. Ça peut être de l'autocensure, ça peut être un doute saboteur ou un syndrome de l'imposteur. Le mec prend plein de formes. Mais si je résume, le tyran intérieur, en fait, c'est cette petite voix dans la tête qui répète « c'est pas ok d'être moi, ça suffit pas, c'est pas assez, je ne suis pas assez ». J'ai appelé ça le mantra pas assez. Et il a des racines psychologiques, ce mantra, on ne pourra pas rentrer dans le détail. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il a aussi des racines sociétales et systémiques. C'est pas vous tout seul qui vous racontez cette histoire. C'est aussi un récit, le mantra pas assez, c'est aussi véhiculé par la société. Et c'est donc un mantra véhiculé par la société qu'on a intériorisé. C'est un mantra issu du récit dominant qui nous maintient dans la sensation d'insuffisance et d'insatisfaction. Pour plein de raisons. Il est pratique ce mantra pour un système. Par exemple, aller donc consommer pour compenser ce pas assez. Allez donc vous comparer les uns les autres sur les réseaux sociaux pour compenser ce pas assez et faire ainsi tourner les algos. Allez donc dominer pour compenser ce pas assez, etc. etc. Donc voilà, il y a une sensation que vous connaissez peut-être, intérieure, d'insuffisance, d'insatisfaction, qui nous fait courir un peu comme des hamsters dans une roue et qui peut plomber largement nos vies. Et pas que nos vies, moi je crois que ça va bien au-delà, je vous l'ai dit, de nos vies personnelles. Je pense que ça plombe nos projets, ça plombe nos relations, ça plombe la société. J'ai fait un diplôme universitaire de médecine, méditation et neurosciences, mais je m'en rappelle plus. À part qu'il y avait un truc très intéressant sur les sciences de l'autocritique, de ces mécanismes tyranniques. Un truc dont je me souviens, qui m'avait marqué, c'était que le problème de ce mécanisme, de cette tyrannie intérieure, c'est qu'elle est vécue par le système comme une agression extérieure. Donc, on ne fait pas la différence entre un lion qui nous attaque et une petite voix en arrière-plan, une espèce de radio maltraitante, qui nous tyrannise à longueur de journée. Le problème, en plus de cette voix tyrannique, de ce tyran intérieur, c'est qu'à la différence d'un lion qu'on peut laisser à la porte, à la différence d'un boss maltraitant, on pourrait démissionner, ne plus le voir, le tyran intérieur, il squatte le canapé de ton cerveau H24. Tu peux pas juste démissionner ou claquer la porte. Tu dors avec. Tu vis avec. Donc il a largement le temps de faire des dégâts. Et on lui laisse de la place, en plus. Levez la main juste pour voir si vous suivez et vous connaissez le tyran intérieur, qui a un gros canapé bien confortable pour lui. Ouais, ok. J'aime bien pas me sentir toute seule. Dans la psychologie bouddhiste, il y avait un truc que j'avais trouvé hyper intéressant. Donc en sanskrit, on parle beaucoup de dukkha et sukha. Dukkha, on traduit généralement par souffrance, et sukha, on traduit par bonheur. Et un jour, j'avais entendu un grand maître qui l'avait traduit autrement, qui disait « Non, en fait, dukkha, ça veut dire contraction, et sukha, ça veut dire expansion. » Décontraction. Et donc, tous les enseignements en fait, de la psychologie bouddhiste qui parlent énormément de libération, ne parlent pas que de libération individuelle et intérieure, encore une fois, je pense que ce sont des pratiques beaucoup plus subversives et révolutionnaires que ça, et collectives. Et donc, tout ce qu'on explore, c'est comment se libérer de ce qui nous met en contraction, ce qui nous entrave, ce qui nous met sous pression, tous ces mécanismes en fait qui nous rendent durs, fermés, violents, et qui nous séparent de nous, qui nous séparent des autres, qui nous séparent de la vie. Et donc comment se libérer de ça, et comment cultiver ce qui nous met à l'inverse en expansion, en décontraction, tout ce qui nous restaure, tout ce qui nous relie donc, relie à soi, aux autres. Et au monde et au vivant. Donc c'est ça le chemin de guérison et de libération. Et donc la tyrannie du pas assez, là, ce tyran intérieur, clairement c'est un des mécanismes qu'on pourrait ranger dans la case dukkha, contraction. Je ne sais pas si vous voyez comment vous sentez quand vous êtes dans un mécanisme de jugement, de dévalorisation, de pression, mais on devient un peu caillou comme ça, tout fermé. Et tout ce qui va être de l'ordre des pratiques qui nous permettent de cultiver l'amitié, c'est ce qui va nous mettre plus dans la case sukha. Décontraction, expansion. Donc la réconciliation, ça va vraiment, cette capacité à rétablir l'amitié en soi, ça va passer par une décontraction, une libération en fait des logiques épuisantes, séparatrices, énergivores, destructrices, de la tyrannie du pas assez. C'est ça qu'on essaye de faire avec les pratiques de self-compassion et d'amitié. Alors, quel est l'antidote à ce pas assez ? Bah, franchement, on va pas se mentir, c'est pas facile. C'est pas facile parce que le mec, il est là depuis, il squatte depuis longtemps, le canapé. Il est hyper bien installé. Mais ça existe. En fait, il existe des pratiques, il existe un chemin, il en existe même beaucoup, pour apprendre à le déloger step by step. J'hésite toujours à faire ça dans un format très court parce que je trouve que on a à peine le temps de planter des graines et puis ça fait un peu bullshit et un peu léger de pratiquer sur un temps très court. Mais je voulais quand même vous donner l'opportunité de goûter un tout petit truc. Un des antidotes. Alors moi, je vous ai dit, je suis fan de baleine. Du coup, je cherche souvent des jeux de mots un peu foireux. Et donc, je l'ai appelé l'antidote cétacé. Voilà. Ouais, je sais. C'est... Voilà. Médiocre et efficace. Cétacé. L'antidote cétacé. Et en plus, non, mais ce qui est cool avec ce mantra, c'est que tout le monde s'en rappelle. Donc, une des pratiques qu'on n'attend pas forcément immédiatement dans des pratiques de self-compassion, c'est ce que j'appelle un art du contentement. Pour sortir des logiques épuisantes, justement, de l'insuffisance et de l'insatisfaction. Et pour sortir de la logique qui nous amène vers le toujours plus. Venez, on va pratiquer quelques minutes, c'est assez. Et donc, je vais vous proposer de vous mettre par deux avec votre copain de table, copine de table. Et vous allez avoir 2 minutes, chacun, chacune. Donc si vous avez des petits... est-ce que moi j'ai un timer ? Oui, moi j'ai un timer. Non, je suis le gong, donc ne vous souciez pas du temps. Vous allez avoir 2 minutes chacun, et vous allez commencer chaque phrase par « c'est assez car ». Et « c'est assez car », et vous laissez libre cours à tout ce qui est assez en vous, autour de vous, dans vos vies, dans ce que vous avez entendu aujourd'hui, peu importe. Quelques minutes simplement pour déprogrammer ce pas assez. Évidemment, le passé reviendra juste après, vous inquiétez pas, parce qu'il est bien installé. Mais juste pour que vous puissiez goûter à ça, et je vous propose, en même temps que vous faites l'exercice, d'être bien à l'écoute de ce qui se passe en vous, et puis d'être bien à l'écoute de l'autre aussi. À l'écoute, quand je dis à l'écoute, c'est essayer de voir comment vous vous sentez, en fait. Comment on se sent quand on s'extrait juste 2 fois 2 minutes de ce mécanisme pas assez qui nous plombe individuellement et collectivement. C'est parti, c'est assez car... Et la première personne, la personne qui a les cheveux les plus longs commence. Et voilà, c'est discriminatoire, mais c'est comme ça. La personne qui a les cheveux les plus longs commence. Alors, on a encore 3 minutes. 4 minutes. 4 minutes, si certaines ou certains veulent partager sur ce petit cétacé avant de conclure. Ouais. Oui. Ok. Trop bien si vous avez pu goûter. C'est une pratique que, quand on n'a pas un copain aux cheveux courts ou aux cheveux longs à côté, qui peut se faire aussi tout simplement par écrit. Prendre 2 minutes. Dans un moment où on est très en contraction, très embarqué par le cétacé. Encore une fois, c'est pas des pratiques non plus, j'ai oublié de le dire, mais c'est pas du positivisme forcé. C'est pas des pratiques pour nier qu'il y a des trucs où franchement c'est pas assez du tout. Vu l'état du monde, on va pas se raconter d'histoire. C'est des pratiques pour se réénergiser, sortir des contractions dans lesquelles notre énergie, elle est emprisonnée, et cette énergie, on en a besoin pour nos causes. C'est ça. Et ces quelques minutes, c'est des moments de rééquilibrage. C'est pas rentrer dans un truc bisounours, ou une réalité tronquée, genre je veux pas voir que, vous savez, tous les trucs spirituels, genre maintenant le monde n'est qu'amour et beauté. Franchement, non. Et on a besoin de ces temps de ressourcement, de réénergisation, de contentement, de sortir de ce qui nous capture, de ce qui nous emprisonne. Ouais, clair. Ben ouais, on va changer la CNV. Très bonne idée. Très, très bonne idée. L'énergie de la baleine. Un dernier partage ? Trop bien. Trop bien. Et ça s'utilise très bien en collectif. Je crois que vraiment la guérison sera collective et pas individuelle. Donc, let's go avec ça. Alors, conclusion. Comment on fait pour conclure une journée comme ça ? Franchement, ça va être pour toi, Thierry. Moi, j'ai repensé juste à ce que disait Jean-Pierre Gou ce matin, qui m'a quand même bien fait chialer. Où il disait qu'il y avait une nécessité pour l'humanité d'apprendre l'ouverture du cœur. Et on va pas se raconter une niaiserie, c'est pas facile hein, d'ouvrir son cœur. Nos cœurs, ils sont fermés pour plein de raisons. Parce qu'ils se sentent menacés, parce qu'ils se sentent en danger, parce qu'ils se sentent agressés. Et donc ça se force pas, on va pas utiliser l'ouvre-boîte pour ouvrir nos cœurs. Mais ce à quoi moi j'ai envie d'œuvrer, c'est juste à dire il y a des pratiques et il y a des chemins. Il y a des chemins pour se libérer de certaines agressions inutiles, au moins celles où on est en violence contre soi-même. Et je crois qu'on a vraiment besoin de ces pratiques de non-violence intérieure. Encore une fois, pas juste pour notre bien-être individuel, mais pour sortir de ces contractions-là, libérer ces énergies-là, et retrouver l'ouverture, ça permet aussi une porosité à la vie, je pense. Un plein contact, en fait, une pleine capacité à entrer en résonance avec ce qui vit en nous et autour de nous. Et voilà, je crois qu'on a besoin de cette porosité à la vie pour la protéger, cette sacrée vie. Sinon, je pourrais finir par une citation d'un mec cool qui s'appelle Bouddha. Il dit toujours des trucs intéressants. voilà. Il dit, c'est une histoire. C'est l'histoire d'un disciple qui dit à Bouddha, « Vas-y Bouddha, n'est-ce pas que c'est important parce que dans la méditation, on croit beaucoup que c'est un chemin d'isolement, de solitude, d'austérité. Et là, il y a un de ses disciples qui vient le voir, il dit, « Mais n'est-ce pas Bouddha que l'amitié, c'est important ?» pour la libération. Et Bouddha, il dit non, c'est pas important. C'est le plus important. Voilà, l'amitié avec soi, les autres et le vivant. J'ai dit.